le dimanche, c'est le dimanche, l'extraordinaire dimanche de la fin. Alors, c'est pour ça que les textes sont des textes qui sont des textes sur la fin du monde. Là, c'est Saint Jérôme qui nous a proposé là pour la méditation. Et il parle du rôle des anges. Et il compare leur rôle des anges à celui des maîtres, des sages, qui enseignent la sagesse. Gabriel, Saint Jérôme, c'est lui, c'est à lui qu'on doit la traduction de la Bible, de l'hébreu, des Septante, en latin. La Vulgate. Il est mort en 420 et était contemporain, si mes souvenirs sont exacts, de Saint Augustin, du pape Pélas, mais aussi de Saint Patrick. Et tous ces grandes figures du début du 5e siècle. Gabriel se traduit dans notre langue par force, la force. La force, le robuste de Dieu. Voilà encore pourquoi, à l'époque où le Seigneur allait naître, déclarer la guerre aux démons et triompher du monde, c'est Gabriel qui est venu auprès de Zacharie et aussi de Marie. Et par la suite, encore, nous lisons dans les psaumes à propos du triomphe du Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats. C'est lui le roi de gloire. Voilà pour Gabriel. Mais partout où il est besoin de médecine et de guérison, c'est Raphaël qui est envoyé. Raphaël se traduit par soin, aux médecines de Dieu. Dieu nous soigne. Dieu nous guérit. Et enfin, par ailleurs, lorsque au peuple d'heureux événements sont promis et qu'il y a un besoin d'expiation, c'est Saint-Michel. C'est Michel qui est envoyé, ce qui se traduit « Qui est comme Dieu ?» En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges. Le chef des anges qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre de Dieu. Et selon la diversité de leurs mérites, les uns se relèveront pour la vie éternelle, les autres pour la honte pour toujours. Les savants auront la ressemblance du ciel, et ceux qui auront été des maîtres pour les autres seront comparés à l'éclat des étoiles, parce que il ne suffit pas de connaître la sagesse si l'on ne forme pas aussi les autres. Et l'enseignement de la doctrine, s'il reste muet, sans édifier autrui, ne peut pas recevoir la récompense du repos. Il faut enseigner. les fins dernières. Et on a... C'était grand. Grand. Très très grand. Très très grand passage, Jésus a donné quand même les signes qui permettent de voir que le figuier ramollit ses branches. Il fait pousser ses feuilles. Et c'est pas encore l'heure des fruits. Mais on voit quand même à l'apparition des feuilles et à la mollesse des branches et des tiges que l'été est arrivé. Hein, c'est ça, le figuier. Le figuier, c'est, ça représente la transmission de la sagesse. La transmission, la sagesse venue d'en haut, la transmission de la doctrine purement divine aux hommes, les maîtres de la sagesse. Et le Christ, Jésus, a donné quand même des signes qui permettent de repérer justement l'apparition des feuilles du figuier avant que même que ce soit la saison des fruits. Là où le corps se trouvera, le corps par excellence, aux axes. Alors les vautours se précipiteront. Lorsque les rapaces, les prédateurs se précipiteront tous ensemble, comme une masse noire, comme l'avait vu Saint Patrick un jour, l'armac, ces espèces de rapaces qui ont couvert le ciel au-dessus de lui. D'une manière telle qu'il a fait nuit, tandis qu'il priait pour savoir comment ces choses adviendraient. Tellement de rapaces, tellement de vautours, tellement de prédateurs se précipitaient comme ça. Il a fait nuit sur l'Armag, parce qu'il se précipite sur le corps de l'homme, quand le corps de l'homme. Quand le corps est le corps substantiel, le corps spirituel, le corps primordial, et en même temps le corps glorieux, le corps assimilé transsubstantiellement à la gloire du Père. Le corps venu d'en haut et créé dans les profondeurs de du Bereshit d'Elohim, de la paternité de Dieu, le corps qui au fond qui est à la droite de Dieu. Voilà, le corps primordial, l'incarnation qui doit contenir le Saint-Esprit, l'incarnation de toutes choses qui se concentre pour apparaître à partir de rien et contenir tous les parfums qui scrutent les profondeurs intimes des hypostases de la Très Sainte Trinité. Ah oui, là, quand vous verrez que tous les démons, tous les idolâtres aussi avec eux, tous les répugnants, tous les abominateurs, et tous les Satan, tous les princes de l'enfer se précipitent. Voilà, 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 un signe déjà. Puis il y a d'autres signes. Le signe, c'est qu'il y aura une détresse en ce temps-là, comme il n'y a jamais eu de détresse. Une détresse totale, une détresse épaisse, une détresse inconcevable, une détresse comme il n'y a jamais eu de détresse depuis le début de la création du monde, même au temps du déluge et de Noé. C'était une détresse très douce à côté de cette détresse qu'il y aura, une détresse comme il n'y en aura, qu'il n'y en a jamais eu, cette espèce de renversement, cette angoisse totale, une confusion absolue, un emprisonnement à l'intérieur d'une noirceur, d'une détresse immense, comme dit le prophète Daniel, chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Une détresse comme il n'y en a jamais eu. Ça, c'est un signe aussi. Et le Fils de l'homme, tout sera suspendu à la supplication, à l'appel, la paternité même de Dieu dans le corps, dans le fond, dans les plus grandes profondeurs de la création, de ce qui est le temple du Saint-Esprit, dans le corps originel, celui qui est adapté à transpercer l'opacité invincible de cette détresse substantielle, pour s'ouvrir comme une huître à la surface de cette détresse noire, nocturne, qui fait que même le soleil ne pourra même pas briller, que la lune perdra toute sa splendeur, perdra toute sa clarté, que les étoiles, c'est-à-dire les prophètes, les écritures, les enfants de Dieu, les maîtres de justice, ceux qui enseignent la paternité incarnée de Dieu dans le ciel et dans la terre, les maîtres de justice, vont tomber, vont s'écraser sur la terre. Il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus. Les chiens vont devenir muets. Les chiens, c'est-à-dire ceux qui doivent éclairer la terre, vont devenir muets. Tout le monde sera béat de terreur, les plus grands, maîtres de la révélation, les plus grands docteurs de la loi, et les plus grands maîtres spirituels, avec la queue du dragon, vont s'écraser sur la terre. Une chute invraisemblable. Va dominer cette angoisse totale, cette confusion, ce renversement de toutes les forces vers la vérité, vers le bien, vers l'accueil, vers le don, vers la paix, va disparaître comme un livre qu'on roule. C'est le contexte dans lequel le Christ va revenir, le Fils de l'homme doit revenir, il va venir pour nous sauver. Il va venir pour sauver le Fils de l'homme, parce qu'il y a dans la liberté, dans la grâce, dans la perfection absolue de l'image ressemblance de Dieu, dans le corps primordial qui est le nôtre, il y a cette capacité à revenir sans cesse à la droite du Père et de venir puiser à la droite du Père corporellement, d'une manière incarnée, l'ajustement à la grâce qui n'a aucune frontière, parce qu'elle y pénètre et elle s'inverse pénétrer avec la gloire éternelle, immortelle et incréée de Dieu. Alors, lire ces passages admirables de nos trois lectures d'aujourd'hui. Alors là, vraiment, il y aura Michel aussi. Saint-Michel, hein, qui est archange, sera là, dans le petit reste de rien du tout. Dans le petit reste de ceux qui sont petits, de ceux qui sont sous l'autel, de ceux qui sont blottis à l'intérieur de l'acte pur, qui fait que Dieu, à partir de rien, donne conception à son Fils unique et bien-aimé, à l'intérieur de la chair et de la ressemblance et de l'image de Dieu, vient se blottir dans la conception du Christ. Alors Saint-Michel Archange sera là, là, face à tous ces élus de Dieu qui vont trouver à la droite du Père de quoi accompagner la conception du Christ, la conception du Fils de Dieu, pas seulement sa conception dans son humanité rédemptrice, mais aussi sa conception dans l'incréé, puisque le Père est conception du Fils. Et dans les deux premières personnes de la Très Sainte Trinité, la conception incréée et la conception créée, qui font que le Verbe dans le Christ peut illuminer tout homme à l'instant où il commence à exister dans ce monde. Cette révélation qui est faite, non pas aux savants, qui vont tomber avec la queue du dragon, lamentablement sur la terre, ce qui a été écarté de la sagesse des savants et des va être donné aux tout petits. Ça aussi, c'est un signe. Seuls les tout petits, ceux qui se blottissent à l'intérieur de la conception, dans l'immaculée conception de celui qui se met debout dans le sein des saints de la paternité créatrice de Dieu, enveloppante de manière incarnée du Saint-Esprit, il va se lever à sa droite, il va être soulevé de terre, et il va s'offrir pour, en une seule fois et une unique offrande, obtenir le pardon des péchés. En une seule fois, le Christ nous obtient la perfection sans limite et sans fin et éternelle. En une seule fois. Et c'est ce que dans ce temps-là, il y aura donc une expiation qui doit mobiliser non seulement la présence de la Créateur de Dieu dans toutes choses, mais aussi toutes les extrémités de la terre et de la matière, jusqu'à la racine même du Bereshit, leur principe, mais aussi toutes les extrémités du ciel. Tout sera convoqué. Et c'est à ça, voilà, qu'on va reconnaître les deux ailes de Saint-Michel Archange, qui sera à côté, à la droite, et face au Fils de Dieu, au tout petit reste, de tout petit, pour proclamer l'expiation. Et que puisse se réaliser cette vision que Jésus en a eue, quand il a vu les apôtres de la fin des temps, la fin du monde. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme éclair. Oui. Ce sera un temps de détresse. Voici que l'archange Saint-Michel se tiendra debout à la face des fils de ton peuple. Ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. depuis le temps de début jusqu'à ce temps de détresse-là. Mais c'est dans ce temps-là que ton peuple sera délivré, qu'il obtiendra la délivrance. Voilà un quatrième signe. C'est que le petit reste, avec la puissance de Dieu, de manière spectaculaire, de manière immédiate, et d'un seul coup, obtiendra une délivrance merveilleuse, une libération totale, une illumination parfaite, une recréation et un réengendrement de leur corps spirituel. Ils seront emportés hors de la détresse, de cette horrible détresse de toute la création devant cette noirceur de l'Apocalypse. Et tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre de la vie, ceux qui, depuis le début de leur conception, ont aperçu dans le livre de la vie leur inscription et qui ont dit oui, qui n'ont jamais cédé, ils sont restés fidèles jusqu'au bout, ils n'ont jamais été effacés du livre de la vie, ils ont accepté, ils ont su qu'ils traverseraient toutes les noirceurs possibles d'avant, de l'aujourd'hui et du futur du monde, mais qu'ils resteraient fidèles à cette enfance, à cette humilité, à ce oui, à cette splendeur, à cette unité, à cette relation vivante où l'aller-retour se trouve là, présent en eux, sans aucun obstacle, entre le monde, des extrémités du ciel, du monde angélique, des extrémités de la terre, de tous les principes dans lesquels ils circulent librement pour être en relation avec la relation subsistante du Fils unique de Dieu. Assis à la droite du Père, jusqu'à ce que tout soit mis sous ses pieds. Ça aussi, ce sera un signe qu'on lit dans le sixième sceau de l'Apocalypse. Un sera pris, l'autre laissé. Deux seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Les justes s'éveilleront, ces gens-là. Les maîtres de justice, ceux qui enseignent donc, ceux qui communiquent la révélation des fins dernières, et la manière de d'ouvrir le mystère du temps, d'ouvrir le mystère des portes de la justice, d'ouvrir la supplication universelle de la création à travers eux, à l'ouverture des portes de la félicité, où le Fils de l'homme, à cet appel, apparaîtra comme Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel et envoyant devant lui tous les anges du ciel pour rassembler des extrémités de la terre et puis des extrémités du ciel. Rassembler tous les élus, rassembler tous les hommes, rassembler tous les lions pour le jugement dernier. Et cet emportement, quoi, cette délivrance, cette immaculation, cette Jérusalem nouvelle de l'Église dans l'accomplissement terminal du monde apostolique, de la vie apostolique, du corps mystique de Jésus vivant et entier, ça aussi c'est un signe que le figuier n'a pas encore donné son fruit, mais que l'heure est arrivée. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Et bien sûr que pour ceux qui vont ressusciter d'entre les morts, à la venue du Fils de l'homme, il y a ceux qui ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ce qui est terrible aussi, c'est de voir tous ceux qui vont ressusciter et qui vont, dans leur résurrection, être engloutis dans une honte substantielle et éternelle. Ce seront des êtres de perdition, de damnation, qui seront, pour ainsi dire, horriblement transformés, transsubstanciés, dans la perfection de la honte absolue. Et pour l'éternité, c'est terrible, cette déchéance, cette chute démoniaque, dans laquelle ils vont être aspirés en ressuscitant d'entre les morts. Et à côté de cela, les justes, je veux dire, ceux qui sont les enfants du Père, du Fils, du Saint-Esprit, les engendrés dans la chair, les temples du Saint-Esprit, ceux qui sont dans le corps hors du principe de la création d'amour et de lumière éternelle de Dieu. Ceux-là, ils vont ressusciter pour être engloutis, pour être introduits, pas seulement introduits, mais transsubstanciés en vie éternelle. Ceux qui ont l'esprit d'intelligence, ceux qui ont la pureté du regard, la pureté de l'âme, la pureté du cœur, la pureté de l'intelligence, la pureté de l'esprit, la pureté de leur unité de personne, la pureté de l'esprit de virginité. Bienheureux, ceux qui voient Dieu déjà, dans tout ce qu'il fait dès cette terre, qui continuent à le voir dans la lumière, de la lumière glorieuse, de la lumière glorieuse, de la vision béatifique. Et les intelligents, ceux qui ont l'esprit d'intelligence, ceux qui scrutent les profondeurs, toutes les profondeurs de la grâce, toutes les profondeurs de la révélation, toutes les profondeurs du monde angélique, ceux qui ont l'esprit d'intelligence, ceux qui voient Dieu dès cette terre. Ah oui, tous ces intelligents-là, ceux qui ont l'intelligence, ils vont resplendir comme la splendeur du firmament. Extraordinaire tout de même de savoir que ceux-là, ils vont resplendir, mais resplendir comme la splendeur du firmament, comme la splendeur du firmament. Le firmament, c'est le fond du ciel angélique, c'est le fond du ciel empyré, c'est le fond du ciel et de tous les firmaments. Dieu a créé le firmament au premier et deuxième jour. Ils vont resplendir comme un soleil éclatant, un soleil brûlant, un soleil merveilleux, un soleil pratiquement sans limite et sans fin. Ils vont resplendir et le ciel disparaîtra parce que le soleil de leur splendeur avec la grandeur, avec la profondeur du firmament tout entier fera leur visage. Ils vont ressusciter pour resplendir, c'est beau comme formule, comme la splendeur du firmament, pendant que les autres sont engloutis dans une honte substantielle, une horreur éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Et ceux qui auront donc vécu de l'esprit d'intelligence, la virginité de la Jérusalem apostolique, éclatante dans son accomplissement et sa plénitude reçue, à la résurrection dernière, resplendiront. Ils seront chacun d'entre eux comme un soleil qui effacera le ciel et même le ciel angélique. Ils auront cette grandeur d'un soleil qui envahit tout. Et le firmament lui-même sera pour ainsi dire englouti dans leur résurrection. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et le livre de Daniel continue en disant, ceux qui ont l'esprit d'intelligence resplendiront, certes. Mais ceux qui sont les maîtres de justice, ceux qui sont les maîtres de justice, Hokmei, Hatsadaka, ceux qui communiquent, comme le figuier, lorsque c'est la saison des fruits, ceux qui communiquent, la tzedaka substantielle, la tzedaka par excellence, la tzedaka incarnée, ceux qui obtiennent que les portes de la justice s'ouvrent pour que le Fils de l'homme apparaisse, pour sauver le monde entier. Les maîtres de justice, ceux qui ont la vocation du véritable Israël glorieux de la fin. Ceux qui sont associés à la Sainte Famille de Dieu dans la chair et dans la fécondité d'inspiration glorieuse. Les maîtres de justice, ceux qui enseignent, voilà, je vais traduire, ceux qui enseignent Saint-Joseph. Les maîtres de justice, ceux qui font comprendre, ceux qui font apparaître, ceux qui font advenir, ceux qui font surgir, éclater, surabonder, la présence paternelle incarnée de celui qui spire à l'intérieur de lui-même, depuis sa conception, mais aussi dans la venue du sixième saut de l'Apocalypse et après, de celui qui spire la nature divine et éternelle et indivisible de Dieu dans la première personne de la très sainte Trinité. Il aspire de l'intérieur parce qu'il est l'incarnation de cette aspiration de la nature divine, de la paternité, non seulement créatrice, mais consumante de la conception de Dieu lui-même en lui-même. Il l'inspire, c'est à l'intérieur de lui-même que l'incarnation de l'époux de l'Immaculée Conception respire le souffle du Saint-Esprit et il meurt pour la rédemption du monde en demandant pardon et en suppliant. Et en face de lui, Saint-Michel Archange qui vient pour l'expiation avec toute la force de Gabriel, avec toute la puissance de libération, d'exorcisme, de disparition du malin et du mal et toute forme d'obscurité de Raphaël. Il est le sage par excellence. Il est le sage qui est la sagesse substantielle qui doit être communiquée. Elle est communiquée dans cet ardema, dans son ravissement, dans son mariage spirituel assumé. Celle qui donne l'absolution incarnée de l'Immaculée Conception. Les maîtres de justice. Ceux qui enseignent, ceux qui diffusent, ceux qui proclament, ceux qui font, ceux qui permettent à cette présence méritoire, terminale, du figuier qui porte son fruit avant le temps de la saison où il doit porter du fruit. Ces maîtres de justice, pour la multitude, vont briller comme les étoiles pour toujours et à jamais. Mais ce sont des étoiles qui vont briller partout où il y a une étoile, il y a une galaxie. Si tu t'approches des étoiles, tu rentres dans un soleil, quelquefois 100 000 fois plus grand que le soleil qui est le nôtre. Ils brilleront comme des étoiles. Ils brilleront comme des étoiles, c'est ça la communication terminale des maîtres de justice, de ceux qui place la paternité incréée et incarnée et glorieuse. Et la fécondité du corps spirituel venu à travers lui, ensemencé, puis engendré, dans le corps spirituel primordial de ceux qui sont encore inscrits dans le livre de vie, une fécondité capable d'ouvrir les portes de la félicité, la croix glorieuse. Je suis la porte. Et la porte, c'est le mystère de la croix glorieuse. Ça aussi, c'est le cinquième signe. Il y aura le signe de la croix glorieuse. Le signe de la croix glorieuse qui va se manifester comme ça, d'un seul coup. Il faudrait comme ça apprendre tous les signes en relisant l'Apocalypse, hein, en disant que, bien sûr, il y a bien d'autres signes encore que celui de la disparition de la foi sur la terre. Et c'est là que je ne peux pas m'empêcher de reprendre le deuxième texte du 33e dimanche extraordinaire du temps ordinaire. Dans l'ancienne alliance messianique, les prêtres disaient tout le temps, ils se mettaient debout, vous avez le temple, et puis il y a le saint, le kadosh du Beth Amikdash, qui est là, et il y a un voile là, et derrière le voile, il y a le saint des saints, le kadosh HaKadosh du Beth Amikdash. Et les prêtres, ils offraient sur l'autel qui était dans le kadosh du temple, ils offraient tous les jours, tous les jours, chaque matin, et sans arrêt, continuellement, ils offraient le sacrifice de l'agneau, le sacrifice de... Ils officiaient pour offrir une offrande de sang et de sacrifice prescrit, hein, mais aucun des sacrifices ne donnait le pardon des péchés. Ils le savaient bien, mais ils l'offraient quand même dans l'attente de celui qui devait être le sacrifice parfait. Ils le faisaient. Ils ont fait un office admirable, et tous les jours, continuellement, ils reprenaient ce sacrifice, jusqu'à ce que vienne Jésus, jusqu'à ce que vienne celui qui est ajusté à son principe, dans l'image ressemblance de Dieu, une unité responsable d'aspiration, dans la transactation glorieuse surnaturelle de leur fécondité. Il a pris en eux de quoi se lever debout dans le Saint des Saints et d'offrir sa vie, pas seulement sa vie humaine, pleine de gloire déjà, puisqu'il est dans la lumière de l'humaine de la gloire de la vision béatifique dès le premier instant, mais aussi sa vie de conception incréée, sa vie de Dieu vivant, pour faire les délices inénarrables, substantiel, dans un acte pur, transcendant, inénarrable, de l'époux dont il est épousé. Oui, c'est lui. Et le Fils de l'homme, c'est l'Épître aux Hébreux, hein, chapitre 10, verset 10, il s'est assis. Après avoir offert pour les péchés l'unique sacrifice, il a été soulevé de terre par les trois lys de la Sainte Famille inscrite dans le livre de la vie. Il n'a pas voulu, pendant cette rédemption de la croix, il n'a pas voulu que ses pieds touchent le sol. Il ne voulait pas toucher le sol parce que cette terre était souillée. Et il a voulu offrir son sacrifice soulevé de terre par les trois blancheurs, soulevé de terre par les trois clous. Et son pied, d'ailleurs, il faut voir comment il a dit à Marie, « Ne t'agrippe pas mes pieds, je ne suis pas encore monté totalement vers le Père et votre Père. » Il a voulu offrir un sacrifice détaché de la terre, dans une ascension irrésistible jusqu'à la fin. Et il a offert son sacrifice, il s'est offert en sacrifice, dans sa divinité, dans son humanité, dans sa grâce capitale, dans sa grâce royale, dans sa grâce familiale, dans sa grâce terminale. et il s'est assis à la droite du Père. Il s'est assis à la droite du Père jusqu'à ce que ses ennemis aient été mis sous ses pieds. Dans un unique sacrifice. Et pour toujours, il est la droite de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le bras, il est la main, il est le terme terminant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le Fils qu'il est lui-même. Et cette unique offrande qui est la sienne, ça a été fait quand même avec des cris d'horreur, de larmes, d'angoisse, pour aspirer en lui toute l'angoisse et la détresse du monde de la fin. L'angoisse des tortures, de la méchanceté substantielle, de la cruauté substantielle, des abominateurs de Dieu qui soient dans une cruauté substantielle, sans limite et sans fin comme les anges, ou qu'ils soient dans une cruauté substantielle infinie dans leur collaboration avec le démon, des abominateurs du nom d'Élohim. Cette angoisse, avec des cris, avec des pleurs, avec des gémissements, des cris stridents, qui s'est offert dans un unique offrande. Et en faisant cela, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il a rendus saints par son sacrifice en une seule fois. En une seule fois. En une seule fois, il nous a donné le pardon des péchés, il nous a accordé un sacrifice pour le péché qui retentit jusque dans l'éternité, la fin des temps, la fin du monde, et toutes les fins et tous les actes purs de chacune des trois personnes. Mais en plus, par son unique offrande, il a amené pour toujours à leur perfection. Il nous a amené, nous, en une seule fois, à la perfection. De la sainteté de ceux qu'il sanctifie dans le Kadosh HaKadosh glorieux et incréé de Dieu. En une seule fois, nous sommes transformés dans cette splendeur du soleil, de la volonté d'amour éternel du Père dans l'aspiration passive du Saint-Esprit, à notre propre perfection. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ciel s'efface et que la terre s'efface. À cause de la sainteté des élus, auquel le sacrifice du Christ a donné la sainteté et la perfection de la sainteté parfaite. Et c'est pourquoi il est écrit, mes paroles ne passeront pas. Le ciel s'effacera, la terre s'effacera, mais mes paroles ne passeront pas. Parce que, justement, c'est l'évangile d'aujourd'hui, parce que il a établi en une seule sacrifice à la fois divin et puis surnaturel et puis à la fois royal, créé, quasi incréé et à la fois éternel et incréé. D'un seul coup, il nous a établi, il nous a fait passer du péché à la sainteté. D'un seul coup, il nous a amenés à la perfection. Et pour toujours, par son unique offrande. D'un seul coup, tu te plonges dans le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel pour la résurrection universelle. Et tu es toi-même comme la splendeur du firmament, un soleil qui fait effacer l'existence même du firmament. Parce que c'est ta perfection, parce que tu as été fidèle, parce que tu es un membre vivant, parce que tu es un maître de justice, parce que tu as le cœur pur, parce que tu as tu participes à la totalité, l'intensité, la profondeur et la substance de la virginité surnaturelle quasi incréée de la Jérusalem dernière qui assimile l'épousée de l'Église de la fin à l'épousée qui t'assied à la droite, le Père, et qui fait la sponsalité. La droite, le terme terminant de l'opération divine en lui-même, hors de lui-même, et dans l'acte pur qu'il est lui-même. Il y a quelque chose de vertigineux dans ce que Jésus a fait sur la croix pour nous et dans la croix glorieuse. Donc si nous introduisons à l'intérieur de la croix glorieuse pour aller jusqu'à Saint-Joseph, jusqu'à la paternité, qui déchire déjà depuis 1290 jours cette paternité du Père hein, incréé à l'intérieur de celui qui le spire dans une âme entièrement déchirée pour la supplication et pour la supplication avec Saint-Michel Archange qui va obtenir à celui qui l'écoute l'ouverture de la félicité des temps. Les portes vont s'ouvrir. Ouvrez-moi les portes de justice. Le Fils de l'homme viendra. C'est normal que Jésus pénètre dans l'engendrement éternel de cette divinité à l'intérieur de Marie pour s'engloutir dans celui qui spire cette sponsalité quasi incréée depuis 1290 jours. Et nous qui nous engloutissons, nous qui voyons Dieu à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de Dieu dans la croix glorieuse de Jésus, dans cette offrande unique, là où nous voyons le maître de justice, c'est-à-dire celui qui est au sommet, qui fait surabonder la justice à l'intérieur de l'âme déchirée de Jésus, les deux ne faisant plus qu'un dans la lumière de gloire de la vision béatifique. De voir Dieu dans cette lumière de gloire, en le sacrifice unique du Fils de Dieu. C'est apprendre à ouvrir les ailes du grand aigle pour nous laisser, pour nous faire entendre, pour faire entendre le cri de la Jérusalem dernière, pour l'ouverture, non pas les temps, d'où elle est issue, et dont Saint-Joseph est le Père. Il est le Père de la Jérusalem nouvelle et dernière, dont il est le Père, tout en étant le Père, et en demeurant le Père. Et il nous apprend, et ça la sagesse, et la pureté virginale des élus de la terre, il nous apprend à être entendu de Dieu. Félix, Tcheli, porta pour les portes du ciel. Et la félicité de Dieu s'ouvre devant nous et fasse venir, comme ça s'est produit le jour de la croix glorieuse, tous les anges du ciel, devant l'âme glorifiée du Christ, ont été envoyés dans tous les lieux, dans tous les temps, dans tous les lieux de ténèbres, dans tous les lieux de la mort, dans tous les lieux de ténèbres, dans toutes les âmes en attente. Et de la même manière, le Fils de l'homme apparaîtra, et devant lui tous les anges, sans exception, iront jusqu'aux confins du ciel, jusqu'aux confins des intériorités glorieuses de la lumière de gloire, qui est la sienne, du monde angélique, et les confins de la terre, à tous ceux qui sont dans la résurrection et la lumière de gloire de ceux qui sont ses élus et ses maîtres de justice. Il y a trois lumières de gloire. Il y a la lumière de gloire que l'humanité de Jésus intègre à l'intérieur de lui-même dès le premier instant de sa conception humaine dans l'Immaculée Conception. Lorsqu'il a assumé ce qui en elle appartient à Saint-Joseph. Il a eu aussitôt, Dieu a pris possession dans son respectus incré de Verbe de Dieu et d'épousée, il a pris possession de ce corps spirituel. de ce corps primordial, de ce corps ressemblant ces images de la Très Sainte Trinité. En y étant plongé dans la lumière de gloire, de la vision béatifique, il est à la droite du Père dès le premier instant et pendant jusqu'à son Noël lumineux, et de son Noël lumineux jusqu'à son Noël glorieux. Il y a la lumière de gloire aussi du monde angélique. Les mondes angéliques, en disant oui avec Saint-Michel Archange, avec la puissance, la toute-puissance substantielle écrite de Dieu, qu'est l'ange Gabriel, avec la puissance de disparition du mal et la guérison de toutes choses, et la disparition de tout aveuglement qu'est Raphaël. Eh bien, c'est ces anges qui ont suivi et qui ont dit « Mais personne n'est comme Dieu. » Je pense souvent à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, quand le pape a demandé qu'on dise la prière à Saint-Michel Archange, après chaque messe, à genoux, on doit dire la prière à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, c'est celui qui, c'est pas le plus grand des anges, hein, mais c'est celui qui a la vision qui leur est faite à tous, d'un unique sacrifice, de l'unique sacrifice du Fils unique de Dieu à venir, ça a créé une commotion à l'intérieur de Saint-Michel Archange. Il dit, mais une commotion totale, sans limite et sans fin. Il dit, mais c'est l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu, la puissance victorieuse de l'amour de Dieu, le don inouï qu'il se donne lui-même jusqu'à connaître cette offrande-là, de cette manière-là, qui peut faire ça en dehors? Qui est comme Dieu? Et lui-même, il a laissé tomber dans les confins, dans les profondeurs, dans l'extrémité, dans toutes les extensions, dans toute l'intensité de la gloire de sa nature pratiquement parfaite. Il a laissé tout tomber. Il s'est englouti à l'intérieur de Dieu pour dire « Personne n'est grand comme toi. » Et du coup, dans le vide extraordinaire dont il s'était vidé lui-même, eh ben, c'est Dieu Tout-Puissant, la gloire lui-même de Dieu, la toute-puissance de Dieu, qui a investi Saint-Michel Archange. Et c'est avec toute cette puissance de Dieu qu'il vient à la fin de chaque messe. Et à la messe de la fin du monde, qu'il vient écraser, qu'il vient écraser la tête de Satan, qu'il vient, comment est-ce qu'on dit ça, avec la puissance de Dieu, il vient faire fondre, enfin, précipiter d'un seul coup en enfer Satan et tous les esprits mauvais. Eh bien, c'est Saint-Michel Archange, là, vous voyez. C'est Saint-Michel Archange qu'on va voir, quand Jésus va pouvoir voir, quand Jésus vivant et entier va pouvoir voir, quand les élus, les enfants du monde qui sont sous l'autel vont voir cette force de l'intervention, de l'accomplissement du fruit de la messe en eux, faire disparaître tout le mal de Satan, toute la cruauté luciférienne, toute la méchanceté substantielle, aussitôt qu'ils vont avancer en suppliant la venue de l'ouverture du temps, en suppliant aussi la venue de l'ouverture des portes de la justice pour l'avènement du Fils de l'homme, qu'ils vont voir qu'à chaque fois qu'ils s'approchent, qu'ils s'avancent sur le fil, sur cette ligne pure du monde nouveau, quand ils vont s'apercevoir que tout le mal qui s'approche d'eux disparaît immédiatement de la terre, ce sera le sixième signe. Le monde nouveau, c'est le sixième signe. C'est le sixième jour où les deux Bereshit, l'acte créateur de Dieu dans cet amour sublime, et puis le Bereshit où de la grâce, de la nouvelle naissance, du Noël glorieux. Les deux Bereshit, les deux principes s'associent dans l'indivisibilité, dans l'unique principe dans lequel nous faisons visiter toute conception, toute création, toute origine et toute inscription dans l'éternité de tout ce qui existe. Là aussi, c'est un signe. Lorsque nous pourrons faire cela, lorsque le Saint-Esprit et la grâce nous sera donnée de pouvoir rentrer dans l'indivisibilité de Dieu, pour que nous soyons nous la droite. Alors à ce moment-là, celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis à la droite, se lèvera et se mettra debout comme l'agneau se met debout. Il se lèvera et il viendra. Il se laissera précéder par tout le monde angélique et glorieux, du fond du ciel et du fond de la terre. Tout ça, c'est objet de foi. Par la foi, notre raison, nous écoutons ça, puis nous entendons ça, puis nous touchons ça, puis nous pénétrons, puis nous regardons ce qui s'y passe, nous le découvrons, dans une, et nous le contemplons. Bienheureux, les cœurs purs, ils verront Dieu, et nous nous laissons assimiler par cette manifestation de la fin dernière. Et nous les sommes assimilés, et nous sommes transformés et affinés. Nous sommes en affinité avec elle. C'est objet de foi. Et donc les maîtres de Jésus doivent l'enseigner. Parce qu'ils vont resplendir comme tous les soleils qui ont existé, qui existent et qui existeront. Ils vont briller. Et faire disparaître la nuit de partout. Comme dit notre âme de la Salette, à la fin, les apôtres resplendiront du soleil des fins dernières pour l'enseigner à toute la terre. L'enseigner, c'est une chose. Mais tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas vu. Eh bien, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons. Voilà ce que les apôtres des derniers temps, je veux dire les innocents, crucifiés, divinement crucifiés et triomphants, eux sont en affinité avec cet apostolat, avec cette communication. Ils sont en affinité avec la grâce terminale de l'accomplissement des temps, en laquelle le mal qui est dans le monde va disparaître. Et le ciel disparaîtra comme un livre qu'on roule et la terre disparaîtra. Mais cette parole-là ne disparaîtra jamais. Alors, il faut retrouver l'oraison. Hein. Tous les jours, il faut donner, il faut retrouver la prière d'unitive. Et cette violence par laquelle nous pénétrons la fin des fins. Le Christ lui-même, Marie-Joseph glorifié eux-mêmes s'effacent, comme Saint-Michel-Archange s'efface, pour qu'il n'y ait plus que cette fin, pour que nous y pénétrons, pour que la touchons, que nous la voyons, la contemplions, que nous en soyons transformés. Il faut revenir avec une violence éperdue, parce que c'est le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les nouveaux Jean-Baptiste qui doivent baptiser la création tout entière dans cette lumière qui doit briller au firmament jusqu'au fond du firmament, jusqu'à faire disparaître le firmament lui-même par la splendeur de ce soleil resplendissant, éclatant le royaume du soleil levant. Il faut rentrer, voir, s'engloutir, découvrir, et puis faire surabonder comme des maîtres de justice, à avec la Sainte Famille Glorieuse, en nous écartant devant les portes qui s'ouvrent de la Jérusalem Glorieuse agréée. Il faut reprendre cette semaine qui nous sépare du Christ, de la solennité du Christ Roi qui fait la fin du temps liturgique. Dans cette année, il faut retrouver un temps santissime, sacré et divin de l'union dans le mariage spirituel, dans la raison et la transformation du monde à travers nous. Si on ne le fait pas, j'ai peur pour la honte et la déchéance éternelle de ceux qui ne le font pas. Je suis effondré pour eux. Mais nous, si nous sommes des vases d'élection remplis, qui se sont laissés remplir et déborder de cette huile délicieuse et merveilleuse, des noces, de l'ouverture des temps, nous ne pourrons pas leur donner la surabondance de cette huile à ceux qui vont ressusciter pour la honte substantielle, éternelle et la déchéance. Non, nous ne donnerons pas le baiser de Judas. Et nous ne pratiquerons pas le triple reniement de Pierre. Mais nous rentrerons dans la Jérusalem dernière, dont Saint Joseph est le Père glorieux, qui vient établir sur la terre avec la puissance de l'Immaculée Conception. Que nous soyons là, présents, dans le royaume où le Fils ou le Christ rassasie le Père en une seule offrande, à la fois dans tous les temps et à la fois dans le temps incré de Dieu. Que nous puissions y être établis jusqu'à ce qu'il vienne, et pour qu'il vienne. Amen.